RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, rebonsoir à tous avec l'intégral tour qui se poursuit donc ce soir en direct du mur d'Huy, plus exactement au sommet de ce mur qui a donc vu tout à l'heure la victoire de Pulito Rodriguez, l'Espagnol, et la prise de pouvoir de Chris Froome, une journée marquée, on va en parler dans quelques instants, par la chute collective très impressionnante à 52 km de l'arrivée, le peloton lancé à plus de 60 km/h, il y a eu des dégâts, on y revient dans quelques instants avec la Dream Team, Cyril Guimard, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc, mais à 19h06, on va rappeler l'essentiel de l'actualité sportive et pour cela, on fait appel à Martial Fernandez, qui est un spécialiste. Rebonsoir.
Rebonsoir Christophe, tu en parlais, le coup de force de Chris Froome, maillot jaune ce soir sur le Tour. Il n'est que deuxième de l'étape à l'arrivée du mur de Huy, étape remportée par l'Espagnol Joaquim Rodriguez, mais Froome a pris du temps sur tous les autres favoris. Nibali et Quintana ont perdu 17 secondes, Contador 24 et Thibaut Pinot lâché a encore cédé plus d'une minute 30 sur Froome.
Les jambes, voilà, j'étais pas bien aujourd'hui. C'est comme ça, des jours sans, et aujourd'hui c'est un jour sans. Ouais, très compliqué parce que voilà, moi j'ai vu William tomber à 80 km/h et voilà, j'ai les jambes coupées. J'étais pas bien après. On fera le point dimanche où on sera pour voir quel objectif, s'il faut changer d'objectif ou pas.
Voilà, Thibaut Pinot, micro de Georges Quirino. Thibaut Pinot marqué par la chute spectaculaire, notamment de son coéquipier à la FDJ, William Bonnet, qui a abandonné, tout comme Tom Dumoulin, Simon Gerrans et Dimitri Kozonchut. Fabian Cancellara, lui, l'ancien maillot jaune, a aussi chuté, mais a terminé l'étape et il va passer ce soir des examens médicaux. Un Français en quart de finale du tournoi de Wimbledon, Richard Gasquet, qui a battu en 4-7 l'Australien Nick Kyrgios. Gasquet qui jouera son quart contre Stanislas Wawrinka, vainqueur aujourd'hui du Belge Goffin. Et puis, pourquoi pas, un deuxième Français qualifié, Gilles Simon, sur le court en ce moment, face à Thomas Berdych. Et ça se passe plutôt bien pour Simon, Eric Salio.
Ah, disons les choses franchement, on serait déçu si Gilles Simon n'accédait pas au quart de finale, vu le scénario des 80 premières minutes, puisque Gilles Simon se mène 6-3, 5-2 face à un Thomas Berdych qui n'est pas dans son meilleur jour, croyez-moi, parce qu'il a commis déjà 24 fautes directes, il est carrément méconnaissable. Et comme Gilles Simon sait le jouer tactiquement, il mène 6-4 dans le face-à-face, il y a des balles cotonneuses, tout ce que le Tchèque déteste. Sa fiancée Esther Satorova était fondré dans les tribunes.
Merci Eric. Et puis Andy Murray vient de se sortir du piège. Ivo Karlovic et ses 2m11 avec une victoire 3-7-0. L'équipe de France de rugby au boulot à Marcoussis, c'est parti pour 2 mois et demi de préparation avant la Coupe du Monde en septembre, avec beaucoup de programmation physique. Préparation au programme pour les 36 joueurs sélectionnés, avec un Philippe Saint-André en mode Coupe du Monde, avec un objectif très élevé.
Quand tu vas dans une compétition, tu y vas pour la gagner, donc on va se préparer pour être champion du monde. On sait que la concurrence est rude, on sait que pour ça il va falloir bien se préparer, donc notre préparation va être importante sur l'aspect physique, sur l'aspect rugbystique, mais aussi sur l'état d'esprit, sur l'esprit, on va dire, commando. Mais et puis après, bon, ça doit être aussi du plaisir, parce que je crois qu'on est des énormes privilégiés, que ça soit les joueurs ou le staff, de préparer une compétition comme ça.
Philippe Saint-André au micro de Laurent Depré. La rentrée des classes pour le PSG, c'était aussi à Marcoussis, reprise de l'entraînement aujourd'hui à Marcoussis, parce que le camp des loges est en travaux, mais sans recrues et sans ses internationaux pour l'instant. Puis ça y est, lui enfin est arrivé aussi à Marseille, l'entraîneur Marcelo Bielsa de retour à l'entraînement ce soir du côté de la commanderie, 10 jours après ses joueurs. La saison va enfin pouvoir commencer à l'OM. Le club de Sochaux entre dans son ère chinoise avec du concret aujourd'hui. Les nouveaux propriétaires, la société chinoise Ledu, spécialisé dans les lampes LED, a pris les choses en main. Officialisation de la cession du club aux Chinois par Peugeot. Objectif bien montré pour les Chinois, que Sochaux et Peugeot, c'est fini. Le Lyon va quand même rester sur le maillot, mais ce ne sera plus le Lyon Peugeot, Alexandre Laoux.
Oui, ce lion commercial de la marque automobile disparaît après 87 ans de présence sur l'emblème du club. C'est désormais un lion animal, crinière et croc déployé qui rugit sur le blason du FCSM. Un emblème comme le voulaient les Chinois, qui s'inscrit dans la continuité de ce que l'on a connu, pas de révolution. Les couleurs jaune et bleu sont toujours là, tout comme le nom FC Sochaux Montbéliard, souligné par la date de fondation du club par Peugeot, 1928. L'identité du club est respectée pour le président Laurent Pernet.
Il était inimaginable de ne pas laisser un lion au sein du du blason du club, qui allie bien ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire de bien faire ce lien entre notre histoire et l'avenir.
Sur le maillot, le nouveau sponsor Ledus apparaît en gros sur le torse, là où Peugeot trônait auparavant. La transition identitaire reste subtile, légère. Néanmoins, la chasse au lion Peugeot est lancée. Il va devoir désormais être supprimé partout dans les bureaux, sur les différents bâtiments du club et le stade Bonal.
Et puis attention à Budapest 2024. Les Hongrois sont aussi candidats pour les JO de 2024. Le Parlement a validé aujourd'hui cette candidature. Ça fait donc 5 villes candidates, Paris, Budapest, plus Boston, Rome et Hambourg. 19h11 sur RMC, on retrouve Christophe Cessieux en haut du mur de Huy pour l'intégral tour.
Exactement, Martial, et on te retrouvera et on retrouvera Virginie Fulpin tout à l'heure à partir de 20h pour les questions aux éditeurs. En attendant, on va se poser des questions avec la Dream Team, avec Cyril Guimard, avec Luc Leblanc et Thierry Bourguignon qui m'ont rejoint. Bonsoir messieurs, bonsoir monsieur le druide, vous êtes magnifique ce soir. Vous êtes
oui, bonsoir.
Il lui manque plus qu'à enlever le pantalon, il est torse nu.
Très sexe. Et regardez encore les pectoraux.
Domino, à 80 ans, il se porte bien quand même.
Ça commence bien. Luc Leblanc, ça va Lucho?
Ah ben moi impeccable.
Voilà, et Thierry Bourguignon, lui aussi, il est torse nu. Il est même en, comme d'habitude,
lui, non, même piscine, pas, même pas. Il est devant sa piscine à Montfavet.
Non, mais bah, absolument pas. Je travaille, monsieur, quand même.
Très bien.
Il est comme moi, il a un vrai métier.
C'est parce
voilà,
que tu m'as dit que t'étais à la plage.
Contrairement à toi.
Je vais le dire à Luc.
Messieurs, retour sur cette troisième étape. Incroyable étape. C'est vrai que depuis le début de ce Tour de France, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. On s'y attendait. Ouais, maintenant, de temps en temps, on est un peu déçu par le scénario qui n'est pas écrit par les coureurs, alors que les organisateurs proposent quelque chose d'excitant. Mais là, évidemment, il se passe beaucoup de choses. Et tous les jours, des choses bien, avec évidemment les grands leaders qui attaquent, des défaillances et d'autres. Et puis des choses moins bien, comme cette chute terrible intervenue donc aujourd'hui.
Il ne peut pas y avoir que des choses bien sur la
Terre. Non, évidemment, sur la route du Tour, on sait qu'il y a toujours
des rebondissements.
En tous les cas, retour sur cette chute, donc intervenue à 52 km de l'arrivée dans une grande ligne droite, Cyril. À cette allure, à ce moment-là, le peloton roulait à quelle allure?
Oh, vraisemblablement aux environs de 60 à l'heure. On était en pleine ligne droite. Ça roulait assez vite parce qu'il y avait un petit vent de côté qui était un petit peu énervant, on va dire, irritant. Et puis, on approchait des difficultés. La première difficulté était à moins de 10 km. Donc, les équipes de leaders, assuraient un tempo relativement vite dans ce léger faux plat descendant. Oui, donc une vitesse aux environs de 60 à l'heure. Mais, rien ne peut expliquer cette chute. On était, on vient de le dire, dans une grande ligne droite, sur une route large, sur un beau macadam, et puis d'un seul coup il y a eu William Bonnet qui a fait un écart, qui est venu toucher une roue et qui est parti, comme dirait Fred Adam, il a tapé le bitume. Le problème c'est qu'il s'est pris tout le monde sur le dos et beaucoup de dégâts, puisque ce soir je crois qu'il doit y avoir déjà
4 abandons et d'autres qui sont sévèrement touchés. Il y a du monde,
une chute qui fait partie, on va dire, qui est un élément de course. Le vélo, c'est ça. Il n'y a pas de vélo sans chute, il n'y a pas de vélo sans risque. On ne peut pas accuser, on va dire, les ronds-points, on ne peut pas accuser un virage non signalé. La seule chose qu'on pourrait dire, est-ce que s'il n'y a pas eu les oreillettes, oui, certains auraient peut-être.
On écoutera le son un peu plus tard, mais Marc Madiot dit que c'est probablement dû aux oreillettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, Luc, je l'ai dit à Fred tout à l'heure
est-ce qu'on peut leur mettre tout sur le dos à ces oreillettes?
Non, mais je l'ai dit à Fred.
Non, pas tout sur le dos, savoir que l'oreillette retire une partie de concentration. Exactement. Lorsque vous êtes en émission. Et ça, c'est pour ça que
la sécurité.
C'est pour ça que le code de route l'interdit.
Exactement.
Bon. Et que la loi française l'interdit.
Je l'ai dit.
Sauf pour les coureurs cyclistes en compétition. Ça, c'est un autre problème.
Je l'ai dit à Fred tout à l'heure sur BFM. La chute aujourd'hui, j'ai dit, ligne droite, longue ligne droite, pas d'obstacle dangereux pour les coureurs. La raison, elle est simple, c'est que William Bonnet était en train de... Mais oui, mais Thierry, il faut être réaliste. Moi, je pense que William Bonnet était en train de discuter avec son directeur sportif, qu'il devait recevoir des ordres, peut-être parce que...
Tu dis
que
à 60 km/h.
Mais bien sûr.
Non, mais il n'y a pas de certitude, messieurs.
Attends, laisse-moi discuter, laisse-moi parler. Après, je te donnerai la parole.
Parce que Marc Madiot dit que c'est à cause des oreillettes, mais s'il était en train de parler à William...
Oui, non, mais... Attends, j'ai été directeur sportif, j'ai suivi le peloton et j'ai utilisé l'oreillette. Je peux vous dire que quand vous regardez vos collègues directeurs sportifs, moi j'étais assez limité et surtout je ne parlais que de façon très courte et jamais dans les 10 derniers kilomètres. Il faut savoir que vous avez pratiquement un directeur sportif sur deux qui est en émission. Quand quelquefois c'est pas les coureurs qui sont eux-mêmes en émission parce qu'ils appuient
sur toute la course. Bon,
ce qui veut dire que vous avez pratiquement la moitié du peloton qui est en émission permanente.
Ça quand est-ce qu'on va interdire ça? Ça devrait être interdit.
Thierry, tu partages pas l'avis de Cyril?
Non, c'est pas, je partage
tu
pas.
Dis que c'est pas que forcément la
sur des certitudes, ouais. Je veux bien. Moi, si
c'est
on
des
dit
certitudes,
que, que le directeur sportif de Bonnet était en train de lui causer dans l'oreillette et que par ce biais, ça l'a déstabilisé ou il a pas fait attention au mec de devant, ça, je veux bien admettre que. De toute façon, Cyril l'a dit, si c'est interdit sur les vélos, dans les voitures, c'est pas pour rien non plus. C'est que les études ont montré qu'on a l'esprit ailleurs quand on est au téléphone, ouais. Avec oreillette
d'ailleurs,
ou
dès
pas.
Qu'on franchit la frontière, ça devrait être interdit par la
donc,
loi.
Donc voilà, mais sur des certitudes. Maintenant, voilà,
on n'est pas sûr, on sait pas.
Et il y a eu d'autres chutes sans oreillette où les mecs n'ont pas fait attention, ont touché la roue avant.
Ça, c'est le discours des contres. Hein.
Tu m'as fait peur, des contres.
Moi aussi, j'ai eu peur.
Non, mais des contres, parce que si tu m'insultais, ça les fusait.
Ça a multiplié les chutes.
On va écouter Jérémy Roy, qui n'a pas été impliqué dans la chute, coéquipier justement de William Bonnet, nous parler de son émotion à la suite de cette étape. Jérémy Roy.
Il y a eu deux grosses chutes consécutives, après on n'a pas tout compris, neutralisé, pas neutralisé, ça repart au de la bosse, ça coupe les jambes, nous on a un équipier qui est tombé.
William Bonnet, effectivement.
William Bonnet, donc on a une pensée pour lui, il est parti à l'hôpital, j'espère que tout va bien, et c'est perturbant, quoi. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui se mêlent, c'est le Tour de France, c'est que du vélo, mais... C'est pas facile.
Voilà, pas facile, nous dit effectivement Jérémy Roy. C'est vrai que le peloton a été impacté. On en reparlera tout à l'heure avec l'interview de Thibaut Pinot. Quoi qu'il en soit, et c'est une chose rarissime dans l'histoire du Tour de France, la course, à partir de ce moment-là, a été neutralisée. Parce que, dans cette chute, eh bien, a été pris Fabian Cancellara, maillot jaune de ce Tour de France, qui est resté de longues minutes au sol avant de reprendre sa bicyclette et de rallier le peloton. Course arrêtée par le directeur de course, qui a même hésité un moment à la relancer. Il y a eu quelques incertitudes, un imbroglio, surprenante décision en tous les cas de Christian Prudhomme, qu'il a justifié tout à l'heure au micro de Pierre-Yves Leroux. On écoute Christian Prudhomme qui n'a pas hésité à prendre cette décision.
Il n'y a pas eu d'hésitation de notre côté, il n'y a aucune hésitation. Après, les oreillettes, elles ne font pas que des miracles. Hein, mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'ils entendent tout. Et quand nous, ensuite, on a bloqué la course et qu'on voulait repasser devant, puisque on ne peut pas lancer la course, il n'y a pas d'ambulance derrière, vous avez compris, donc il n'y en avait plus. Mais ensuite, nous, il faut qu'on passe devant avec nos voitures. Et dès qu'on veut repasser devant, qu'est-ce qu'ils font les coureurs? Ils avancent, ils se mettent à repartir. Voilà. Et il faut les bloquer. Et on ne cessait de répéter au directeur sportif, dites à vos coureurs, laissez passer les deux voitures rouges, autrement, on ne pourra pas repartir. Mais ça avançait. Il y avait certains coureurs qui râlaient, oui, bien sûr, parce que ce sont des fauves en compétition. Et c'est normal, mais il y en avait beaucoup aussi qui disaient mais qu'est-ce qui s'est passé, et surtout combien de blessés, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est grave, comment va mon copain, etc. Donc c'était vraiment très partagé. La décision prise par Guy Doblard pour l'UCI et par Thierry Gouvenou, notre directeur de compétition, je l'assume totalement, on n'allait pas lancer sur le final d'étape 120, 130, 140 coureurs sans la moindre ambulance, on le fait jamais.
Voilà, décision collégiale, nous dit Christian Prudhomme, prise à la fois par ASO, la société organisatrice de Tour de France, et par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. Alors, évidemment, sur Twitter, ça s'est déchaîné, personne ne comprend pourquoi cette décision a été prise. Messieurs, est-ce que vous avez compris? Est-ce que la direction du Tour et la direction de l'Union Cycliste Internationale ont eu raison de neutraliser la course? On va commencer avec toi, Thierry.
Sur ce que j'ai entendu, il y a une décision sage... Alors sur la course, quand on ne savait pas s'il y avait des toubis devant et tout, bon, moi je veux bien, c'est une initiative après comme une autre, mais bon, c'est un fait de course. Il y a eu d'autres gamelles qui ont engendré des chaos de certains coureurs et la course ne s'est jamais arrêtée. C'est ouais. Vrai que je vous ai écouté cet après-midi. Si jamais il y avait eu une échappée, alors, comment on aurait fait?
Alors justement, j'en parlais tout à l'heure avec Jean-François Pécheux, l'ancien directeur de course du Tour de France, qui me disait oui, mais justement, il n'y avait plus d'échappée. Le peloton était groupé, on était à 50 km de l'arrivée et les difficultés étaient encore à venir. Donc il y avait ce côté-là. qui a peut-être fait pencher la balance dans le sens de la neutralisation. Hein. C'est Cyril, qu'est-ce que tu en penses? Si effectivement il y avait eu une échappée, ça aurait été plus compliqué d'arrêter la course. Hein.
Ça aurait été plus compliqué, mais c'était dans le domaine des possibilités. On a eu un cas similaire, rappelez-vous, dans les Ardennes où il y avait eu de nombreuses chutes et entre autres les frères Schleck. Et d'ailleurs, c'était Cancellara qui avait demandé.
C'était pas l'organisation à ce moment-là.
Il n'y avait pas d'échappée.
Il y avait Chavanel devant.
Chavanel gagne l'étape. Ouais. Mais là, il y avait des faits qui n'étaient pas des faits de course puisque la route n'était pratiquement plus praticable. Donc là, effectivement, mais là, la décision était difficile parce qu'il y avait des coureurs partout. Mais ça s'est déjà produit. Mais là, il y a une chute.
C'est sérieux.
Normalement, on n'arrête pas la course. Bon, et il y a un moment, on voit qu'il y a une neutralisation. Et là, il y a des choses, il y a des informations qu'on n'a pas, et c'est pour ça que bon, quand on parle, par exemple, des gens qui tweetent, bon, ils vont peut-être me taper dessus dans les 5 minutes qui viennent, mais quand on n'a pas toutes les informations, on dit pas n'importe quoi. Nous, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, logiquement, la course doit continuer, il n'y a pas d'éléments extérieurs qui font que, sauf qu'à un moment, il y a le service médical qui doit donner comme information qu'il n'y a plus d'ambulance derrière les coureurs et qu'il n'y a plus de médecins. Et à ce moment-là, imaginons un seul instant qu'il y a un accident dans le peloton, oui, avec un cas grave qu'il faut entuber, je sais pas, enfin bref.
Oui, ou juste un problème cardiaque, simplement.
Attendez, là, vous faites comment? Et là, la responsabilité des organisateurs et du jury des commissaires aurait été engagée. Alors, il n'y avait pas d'échappée, mais on peut. Les commissaires peuvent arrêter n'importe quel coureur en course à n'importe quel endroit de la course. Mmh. Dans des situations exceptionnelles. Donc si on arrête le peloton, on sait quel est l'écart. En plus avec les GPS, c'est facile au moment où s'est produit la chute. On connaît l'écart, on fait repartir les échappés, on les arrête, on les fait repartir, et on fait repartir le peloton avec le même écart. C'est une facilité.
Oui, ça c'est sûr.
Enfantine.
Alors, qu'en pensent les directeurs sportifs? On est allé poser la question au manager de Chris Froome, Dave Braceford, on va y arriver. On va l'écouter. On va peut-être en parler plus souvent de Dave Braceford d'ici l'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées. Le manager de Chris Froome de la formation Sky.
Tout de suite, j'ai compris que il y avait un problème avec un truc médical. Et moi, j'aime bien que quand il y a des règles, qu'on prenne le contexte de la situation et on laisse les gens être un peu flexibles pour prendre une bonne décision. Et je pense, dans ce cas-là, Christian a fait un super travail. Il a pris la bonne décision. Je suis 100% derrière lui. Ça ne va pas dire que s'il y a une chute demain, il faut arrêter la course. C'est ridicule de dire ça. C'est ridicule. Il faut avoir les grands leaders. Ils ont une flexibilité. Ils prennent les choses bien. Ils prennent le contexte de la situation. Ils prennent des bonnes décisions, comme on a vu Christian faire aujourd'hui.
Voilà, bonne décision, dit Braceford. D'ailleurs, sur le hashtag RMC Live, la situation est en train de s'inverser parce qu'on a beaucoup de tweetos qui nous disent qu'ils comprennent la décision.
Parce
qu'on leur a expliqué ce qui s'est passé. Il faut un peu de temps pour avoir les informations. Toi nous dit maintenant, je comprends mieux la décision. Je félicite la direction. Pour moi, ils ont pris la bonne décision. Imaginons qu'il y ait une grosse chute sans ambulance, ça aurait pu mettre la vie de coureur en danger. Ou Baptiste qui nous dit sérieusement, ils peuvent pas mettre plus de moyens. Il y a déjà eu des chutes collectives dans le Tour et la course jamais neutralisée.
Il y a des cas exceptionnels de partout.
Tiens, Thierry, notre auditeur number one je crois que Thierry n'est pas d'accord avec tout ça. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs. Je ne l'étais pas, mais je, comme dit Cyril, on n'avait pas tous les éléments pour pouvoir juger de la situation. Effectivement, je pense que la direction de course a pris la bonne décision et qu'en plus, ça n'a pas influé sur la course. Alors bon, vous citiez le cas d'une échappée éventuellement, mais on pouvait aussi imaginer que si Cancellara n'avait pas tapé si fort, il aurait pu éventuellement être dans le final et conserver son maillot. Les discussions auraient été autres. Ça c'est pour l'histoire de la chute et de l'arrêt. Si tu me permets, Christophe, je voulais revenir sur le cas Chris Froome. Il se rappelle un petit peu au bon souvenir de tous ceux qui ne le voyaient pas forcément sur le podium à l'arrivée, dont je faisais partie. Et je voulais juste signaler un petit truc qui est aussi inédit dans cette étape-là, c'est que Chris Froome a monté quasiment sous le mur de huit en danseuse, ce qui lui était jamais arrivé. Oui, on l'a jamais vu. Hein.
Lever le cul de sa selle.
Ouais, oui,
c'est,
oui.
Il y avait 21-25% des endroits.
Il y a des moments.
Oui, mais il y a des cols avec des pourcentages aussi élevés. On l'a jamais vu. On voyait toujours monter.
Non. Il n'y a pas de col à 20-25%.
Moi, j'ai pas trouvé qu'il montait vraiment danseuse. Il a quand même monté.
On va parler de Chris Froome, puisqu'on va en parler dans notre prochain débat, évidemment. Merci Thierry, en tous les cas, d'être venu au 32-16. Donc, les gens sont en train de.
Merci Thierry.
Non, Thierry, tu restes avec nous. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais lui, il veut déjà repartir à la piscine à 19h25. C'est dans une heure seulement la piscine, monsieur.
Bon,
monsieur Bourguignon.
Toi,
messieurs, nous allons faire un tour à Wimbledon avec une journée de rêve pour les Français, Eric Salio. Après la qualification de Richard Gasquet, Gilles Simon va peut-être l'imiter dans quelques minutes. C'est ton
avis. Oui, exactement, puisque Gilles Simon se détache irrésistiblement. 6-3, 6-3, 2-0 pour le Français face à un Thomas Berdik méconnaissable. Mais on a le début d'une explication. Il avait un gros emplâtre autour de la cheville gauche, il l'a enlevé, mais ça ne change rien au problème. Le Français se balade sur le prêt londonien 6-3, 6-3, 2-0. 91 qu'on n'a pas vu de Français en quart.
Ce serait pas mal. Merci Eric, à tout à l'heure. Dans un instant, la suite de l'Intégral Tour, toujours en direct de Huy au sommet du mur. Nous allons revenir sur la prise de pouvoir d'un certain Chris Froome, qui est peut-être désormais le seul fantastique de ce Tour de France. On en parle dans un instant avec vous au 32-16, avec vous sur le hashtag RMC Live et avec la Dream Team Cyril, Luc et Thierry. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour, toujours en direct de Huy ce soir au terme de la troisième étape du Tour de France, une étape 100% belge, une étape marquée par une chute collective du peloton. On vient d'avoir des nouvelles toutes fraîches de William Bonnet. Elles sont pas franchement optimistes, elles sont pas très très bonnes, puisque le coureur de la Française des Jeux souffre d'une fracture plurifragmentaire de la deuxième vertèbre cervicale, fracture qui nécessite un traitement chirurgical rapide pour stabiliser la cervicale, éviter toute conséquence neurologique. Il sera transféré rapidement en France, a priori à Paris, dans un service de neurochirurgie. C'est le docteur Gérard Guillaume, médecin de la FDJ, qui vient de nous donner l'information. Donc bon, voilà, c'est pas non plus très très réjouissant pour William Bonnet, mais Cyril, on le disait tout à l'heure, il a tapé très fort et surtout il a pris tous les coureurs du peloton derrière. Enfin, il a pris une dizaine de coureurs sur la tête, quoi.
Il a pris tout le monde. Il a pris les coureurs, à part quelques-uns, les coureurs et les vélos.
Ouais, les coureurs et les vélos. Et donc, voilà, William Bonnet qui va être donc transféré à Paris et opéré dans sans doute la soirée ou demain matin. Retour donc sur maintenant la bagarre du général, parce qu'il s'est passé après la chute beaucoup de choses, et notamment dans l'ascension du mur d'Huy dont on parlait tout à l'heure. Cette terrible ascension qui n'est pas très longue, 1,3 km, mais avec des pourcentages particulièrement élevés, 20%, 25% disent certains, peut-être, pourquoi pas 30% dans le virage. Non. 25% à 30% on recule, hein, on tombe en arrière.
23,
mais il y en a qui passent par Marseille de temps en temps.
Hein. Voilà. Non, 25%, ça c'est officiel.
Non,
alors,
c'est 19%.
19%, d'accord. Monsieur le Druide a le bon pourcentage. On va écouter Monsieur le Druide. Une victoire d'étape pour l'un des spécialistes de cet effort et de ces ascensions sèches rapides, c'est pour Hito Rodriguez, qui a montré qu'il était là, qu'il faudrait peut-être compter sur lui, peut-être pas dans les grands cols, même si évidemment c'est un redoutable grimpeur. Et puis dans sa roue est arrivé quand même le Kenyan blanc, vainqueur du Tour il y a 2 ans, Chris Froome, le Britannique de la formation Sky, qui en terminant deuxième récupère par la même occasion le maillot jaune. Il est de retour aux affaires, celui que les bookmakers anglais voyaient favori du Tour de France, celui que personne dans la Dream Team RMC ne voyait terminer sur le podium. Je le dis, je confonds pas
l'arrivée d'aujourd'hui avec une montée sèche tous les jours.
Est-ce que je peux apporter une précision?
Ça va durer 2 heures. Bon, alors l'autre jour,
il prend le maillot pour 6 centièmes.
Ah bah, et encore une fois, celui
devant
qui est content, c'est Martine.
Et Martine, ça fait 2 jours qu'il peut se les manger.
Oui, bah,
ouais, mais là, mais
là
avis,
pour
6
centièmes, parce que ce sont les centièmes du contre-la-montre qui sont pris.
D'accord. Donc, Chris Froome en jaune, le voilà de retour en jaune, lui qui a remporté le Tour 2013, qui l'an dernier a vécu un abandon, on le rappelle. Chris Froome qui, évidemment, était ravi à l'issue de cette étape. On l'écoute.
C'est une grosse surprise après l'étape d'aujourd'hui d'avoir le maillot jaune, surtout après une montée courte comme ça. Je suis très heureux pour mes fans et pour mes équipiers qui ont réalisé un gros travail. Il y a eu beaucoup de chutes aujourd'hui, une étape très dangereuse, comme lors de la Flèche Wallonne cette année. Mais je respecte la décision de la direction de course d'avoir neutralisé la course. Et ma sympathie va à tous les coureurs touchés dans la grosse chute aujourd'hui.
Voilà, Chris Froome traduit en direct par Pierre-Yves Leroux.
Il est bien, il est bien.
Il est pas mal du tout. Alors, Chris Froome, désormais.
Ça fait marketing un peu, ça.
Mais arrête, Thierry, c'est sincère. Tout de suite, alors il vaut mieux fermer sa bouche.
Mais je sais pas ce que je veux dire.
Je parle de Thierry là.
Ah, bon. Ne vous disputez pas, messieurs. Arrête. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable de prévoir le vainqueur du tour.
Je parle pas de toi, Thierry.
Non, mais c'est ce qui me fait rigoler, mais c'est de l'anecdote. Ouais. C'est qu'il est content pour ses fans et ses équipiers.
Oui, pas pour lui.
Il était content pour lui, quoi.
Non, mais lui, il s'en fout. Lui, ça lui est tombé comme ça.
C'est un modeste, c'est un gentil.
S'il avait pu freiner dans le mur, il l'aurait fait.
Il vaut mieux avoir un fond qu'un Wiggins, c'est un maillot jaune aujourd'hui, je te le dis, moi.
Non, mais j'attendais qu'ils disent, mais je suis pas content pour moi, quoi.
Bah ouais. Non, mais ça donnait ça, exactement ça.
Alors, je suis d'accord avec toi, Cyril. Froome, c'est une montée sèche aujourd'hui. On peut pas tirer d'enseignement non plus.
C'est vrai, il pleuvait pas. Montée sèche.
Ouais,
non, il est surpris lui aussi.
1,3 km, montée sèche. Je veux dire, quand t'adores, c'est un pur grimpeur. Voilà, c'est peut-être pas une montée non plus.
Il y a deux ans, dans le Ventoux, c'est pas une montée sèche le Ventoux. Oui, hein, tu as vu ce qu'il avait fait, rappelle-toi. Non, mais attendez, Chris Froome est de retour. C'est aujourd'hui le favori. Bien sûr qu'il est de retour.
Ça y est, c'est comme Pinot. Et Christophe,
il y a deux jours, c'était Pinot.
Froome, ça y est, il fait deuxième aujourd'hui. Ça y est, c'est Froome, il va gagner le tour avec une demi-heure d'avance.
Ouais. Demain, imagine, il se casse la gueule sur les pavés.
Mais laissez faire.
Et c'est qui que tu vas mettre en avant?
Laissez faire. Il faut laisser passer les jours. Et puis
Donc, vous n'en faites pas votre favori. Thierry, mais tu n'en fais pas ton favori, toi.
Toujours pas, sinon je perds tous mes paris. Je perds tous mes paris, sinon.
Très bien. Chris Froome.
Non, il va faire troisième.
D'accord, il va faire troisième. Bertrand est au 32-16 avec nous. Impressionné par Chris Froome. Salut Bertrand.
Bonsoir, Advin Team.
Bonsoir. Salut Bertrand.
Je suis impressionné parce que malgré tout, malgré ce que certains disent, c'est qu'en fait, il finit deuxième derrière un pur puncher quand même, même si Rodriguez est un grimpeur, mais ça reste un des meilleurs punchers du peloton. Et derrière, moi, j'estime que Froome, c'est pas un grand puncher, et il a quand même réussi à tenir pratiquement sa roue. Il y a les Valverde, il y a un Valverde qui aime très bien ce joueur de côte qui est loin derrière. Moi, il me semble que Froome est très en forme et par contre la concurrence ne l'est peut-être pas. Alors, est-ce que certains misent sur la fraîcheur de la troisième semaine? Il y en a qui auront peut-être un pic de forme à ce moment-là. Maintenant, toutes les secondes et les minutes qu'ils vont perdre sur Froome, avec la grosse équipe qu'il a autour de lui, ça va être compliqué à récupérer. Alors voilà, les purs grimpeurs ce qui est bien, c'est que pour les Pyrénées et pour les Alpes, c'est que les grimpeurs, les vrais grimpeurs, les Quintana, les Contador, vont devoir passer à l'offensif et ça nous promet un super Tour de France.
Alors pour information, Contador a déjà été sur le podium de la Flèche Wallonne.
Ouais, mais Contador a craqué aujourd'hui.
Quand on dit qu'il passe pas bien, il l'a passé mal aujourd'hui.
Il a passé pas mal.
Non, il était mal, Valverde aussi.
Depuis le départ, il est mal.
Et oui, il était mal. Ils étaient mal aujourd'hui. Ils sont à leur place. Et je vais te dire, il y en a un qui m'a impressionné, c'est la moulinette Froome. Hein. Ouais. Parce que franchement, monter dans du pourcentage comme ça et avec une cadence de pédalage aussi rapide, champion. Ouais. J'ai même cru qu'il allait bouffer...
Pourrito, il voulait pas prendre de poids.
Alors, le classement général ce soir à l'issue de cette étape, donc Chris Froome s'empare du maillot jaune pour 6 centièmes d'avance, c'est ça sur Tony Martin qui n'aura toujours pas le maillot jaune demain.
Il l'aura demain.
TJ Van Garderen, on en reparlera les jours prochains de TJ Van Garderen, l'américain de la formation BMC, 3e à 13 secondes. Tony Galopin, premier français qui a été encore une fois énorme aujourd'hui, qui termine l'étape 4e, je crois, est à 20 secondes.
26
secondes. Ouais, ouais. Contador est un peu plus loin,
36
secondes. Le deuxième français, c'est Warren Barguil, il est 11e à 1.07. On a également Nibali, vainqueur sortant du tour, 13e à 1.38. Valverde, 16e à 1.51. Quintana, 17e à 1.56. Rodriguez est 18e à 2 minutes. Katowski, 19e à 2.02. Jean-Christophe Perrault, 2e du tour l'an dernier, est désormais 21e à 2.07. Villermoz, qui a été très bon aujourd'hui, le petit grimpeur de la formation G2R, 22e à 2.26. Jules Simon, 24e à 2.45. Bardet, 26e à 2.54. Et le dernier de tous ces grands favoris, c'est Pinot. Thibaut Pinot, 27e ce soir à 2.58. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le tour est perdu, que le podium est envolé, que le top 5 est dans la boîte? Enfin, bref.
Écoute, avec 3 minutes, il aurait 3 minutes d'avance, je dirais, sur les autres favoris. Je dirais, il a une chance de gagner le tour. Avec 3 minutes de retard. Non, objectivement, on est obligé de dire que, compte tenu des circonstances, en plus on a une étape de pavé demain, c'est pas sûr qu'il perde pas du temps. Et puis j'ai le sentiment que, avec l'étape hier dans le vent où il a perdu 1 minute 27, j'ai l'impression qu'il a débranché là-haut, et on l'a bien senti, hein, sur le final de cette course. Alors effectivement, il y avait la chute dans laquelle était impliqué son équipier, mais il avait quand même déjà pas trop de force. Donc 3 minutes, il est impossible de, enfin, celui qui dit qu'il va gagner le tour aujourd'hui, faut qu'il dévoile.
Il va être riche demain.
Il va être riche demain, parce que s'il parie sur Thibaut ce soir, ouais. Thibaut Pinot, ses explications, pourquoi est-il passé encore une fois à côté aujourd'hui? On l'écoute.
Les jambes, voilà, j'étais pas bien aujourd'hui. C'est comme ça, les jours sans, et aujourd'hui c'est un jour sans. On fera point dimanche où on en sera pour voir quel objectif, s'il faut changer d'objectif ou pas. Je suis tombé juste à côté de moi, j'ai vu William tomber à 80 km/h et voilà, j'ai les jambes coupées. J'étais pas bien après. Encore les pavés, encore une grosse étape, donc il faudra voir comment j'ai récupéré. Si c'est comme aujourd'hui, ça va pas être. Ça va pas être beau, quoi.
Thibaut Pinot qui explique.
C'est plus en plus rapide.
Il va avoir des difficultés par la chute de William Bonnet qui est tombé juste devant lui. Il était quasiment dans la roue de son équipe.
Le problème de Thibaut, c'est qu'il va perdre beaucoup de temps encore.
Ah bon?
Mais oui, parce que tu regardes, dans 48 heures, c'est le contre-la-montre par équipe.
C'est pas tout de suite là.
Dimanche, le contre-la-montre par équipe.
Je sais que tu adores le jour du Seigneur,
dimanche, le contre-la-montre par équipe. Moi, je trouve que pour un contre-la-montre par équipe, c'est quand même un petit peu tard sur un grand tour. Sachant que, regarde, il y a eu des chutes aujourd'hui, il y a des coureurs qui vont être éliminés.
Ben
Pour en arriver, je veux dire, là où je veux en arriver, c'est que le contre-la-montre par équipe, la Française des Jeux va être diminuée déjà. Donc ça, c'est quand même important. Ils ont déjà perdu un équipier.
Il y en a d'autres qui ont perdu les équipiers.
Oui, si tu veux faire le bilan, parce qu'il n'y a pas.
Par rapport aux équipes de favoris, les équipes de favoris, je crois qu'elles sont au complet.
Non. T'en as.
On fera le point demain, parce que là, la
même chose. Ce soir, il y en a qui ont mal dormi.
Ouais, ça va.
Ils sont repartis, qui ont fini, mais qui repartiront peut-être pas demain ou alors avec beaucoup de difficultés.
Alors, quand dit Marc Madio, le manager de la FDJ, on lui a posé la question, la réponse de Marc.
C'est le vélo. Les jours où tout va bien, les jours où tout va mal. Voilà. On fera le point quand on sera à Plumelec. Enfin déjà on sera qu'à 8 pour le chrono, donc je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. En plus Bonnet est un bon coureur de chrono par équipe. Donc on va faire avec. Quand on fait du vélo, qu'on fait le tour ou d'autres courses, on sait que ça peut se produire. Hein. Il y a des années où ça rigole, puis d'autres moins. Donc on va faire le point ce soir et puis on verra demain.
Voilà, Marc Madio, le moral dans les chaussettes.
Il est arrivé au contre-la-montre.
Cyril, toi qui le connais, là, le ton est
mesuré, calme, mais bon, c'est vrai qu'il peut pas être euphorique, il peut pas être gai ce soir. D'abord, parce qu'il a un de ses coureurs qui est quand même sérieusement touché. Au classement général, depuis 2 jours, la FDJ et Thibaut Pinot, ils reçoivent. Il y a rien qui va comme il l'aurait souhaité et comme il l'aurait même pu dans un scénario le plus catastrophique. C'est pas ce qu'il aurait pu imaginer. Donc, il s'est sérénité quand même gardé. Et bon, ça fait.
On s'attendait à un tour en rebondissement, mais pas,
pas
avec
nous,
autant
pas
de choses et
pourtant,
de changements.
On prévenait quand même, pas aussitôt.
Oui, mais là, il y a tous les jours, il y a un changement de maillot, il y a un coup, un, un coup de bordure, une gamelle, bon, ben, ça fait partie du métier, hein, c'est clair, mais c'est un rythme très fort, hein. C'est parti très
Chris
fort.
Chris sur le hashtag RMC Live, question pour Cyril.
Pour en un champion.
Cas, c'est une question pour un champion. Thibaut Pinot, nous dit-il, n'a tout simplement pas une équipe assez forte pour le protéger dans ce genre d'étape, surtout lorsqu'on est dans un jour sans. Cyril Guimard.
Oui, alors c'est vrai que ça n'est pas la meilleure équipe du peloton. On connaît les 4 ou 5 grosses équipes dans le peloton. Le problème, c'est que l'équipe de la Française des Jeux, si on compare au football, c'est le Stade Rennais ou le Football Club de Nantes. Et puis au-dessus, vous avez le PSG. Voilà. Donc vous n'avez pas les mêmes moyens et donc pas les moyens d'aller chercher aussi des coureurs comme ceux que l'on peut voir autour des Contador ou autour des From qui valent 3 fois le prix des coureurs français. Donc il faut faire avec les moyens du bord et si vous en parlez à Marc Madiot, il va dire donne-moi 3 millions de plus et puis effectivement je pourrais avoir des coureurs d'un autre niveau. Donc je fais la soupe, je fais le repas avec ce que j'ai de.
Ouais, la comparaison est intéressante, Thierry Lucho, entre effectivement des
vrai,
équipes, des
équipes pas,
du milieu de tableau en Ligue 1 et puis le Paris Saint-Germain, ou entre le Paris Saint-Germain et le Barça et les Grandes Europe.
Les SDJ écoutent Cyril, c'est sûr que ça va pas leur faire plaisir.
C'est la réalité. C'est la réalité.
Tu veux faire plaisir à tout le monde, toi.
Non, mais laisse-moi finir.
Tu peux pas faire plaisir à tout le monde tous les jours non plus.
Tu la boucles et laisse-moi finir.
Oh, s'il te plaît, Lucho. Il faut être un peu de retenue.
Je dis, il faut être réaliste. C'est vrai qu'il y a peut-être un manque de moyens à la FDJ. Pourtant, la FDJ a quand même beaucoup de sous parce que moi, je joue au loto.
toujours pas gagné.
Je peux faire passer un message au grand patron de la FDJ. Mais bon sang, depuis le temps que vous êtes dans le vélo, vous pouvez multiplier par, allez, pas par deux, mais 1,5, votre budget pour avoir vraiment une équipe qui puisse gagner le Tour de France. Vous le méritez depuis le temps que vous êtes dans le vélo, monsieur le président. Donc faites le nécessaire pour donner les moyens à Marc Madiot de pouvoir au moins une fois remporter le Tour de France.
Ou alors il faut faire appel à la QDJ. La Qatar des Jeux. Il n'y a que ça pour espérer remporter le Tour de France. Tiens, on va refaire un petit tour à Wimbledon avec Eric Salio et Gilles Simon, opposé à Berdych. Ça marche bien pour Gilles Simon ce soir.
Balle de match. Voilà, c'est fini. C'est gagné pour Gilles Simon. Victoire expéditive du Français en 3-7 face à Thomas Berdych, tête de série numéro 6, 6-3, 6-3. 6-2 Berdych, probablement handicapé par une petite entorse, mais bon, les faits sont là. Il y aura 2 Français en quart de finale de Wimbledon, ça n'était pas arrivé depuis 91, et puis on aura surtout, sûrement, une double confrontation France-Suisse, puisque Gilles Simon affrontera pour le Federer si celui-ci se débarrasse de Bautista Agut. C'est bien parti pour
Roger Federer. Ça ne réussit pas trop les confrontations franco-suisses depuis.
Non, mais là, tu vois, par rapport à Lille, on va changer les joueurs, hein. Ouais. Le vendredi, on avait mis Simon et Tsonga. Là, on va mettre. On avait mis mon fils et Tsonga. Là, on va mettre Simon et Gasquet. On change, on brouille les cartes.
Ouais. On essaye de brouiller les cartes, on essaye d'embrouiller les Suisses. Comme on l'avait fait, ça avait bien marché avant la finale de la Coupe Davis. Hein. On espère que ça marchera mieux cette fois-ci. Merci Eric. Tiens, Marado sur le hashtag RMC là. Oh, il est défaitiste, Marado. Il nous dit regardez les écarts. Évidemment que Froome a déjà course gagnée. C'est sûr, dit-il. Le temps va être long jusqu'à Paris. On s'est ennuyé sur ce Tour de France? Non, pas l'impression.
Non, c'est pas fini. On va pas s'embêter demain, moi je sens.
En tout cas, nous on va pas s'ennuyer.
Et ben justement, on va parler de l'étape de demain, les pavés de Paris-Roubaix et évidemment cette course qui va être passionnante une nouvelle fois demain après-midi. À tout de suite, l'Intégral Tour revient dans une minute.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La suite de l'Intégral Tour, toujours en direct de Huy, en compagnie de Cyril Guimard, de Luc Leblanc et de Thierry Bourguignon. Nous dressons le bilan de cette 3e étape et nous allons maintenant aborder la 4e étape, une nouvelle classique demain après la Flèche Wallonne. Eh bien demain c'est Paris-Roubaix à l'envers, mais Paris-Roubaix tout de même, avec des secteurs pavés, Cyril, une étape qui s'annonce redoutable une nouvelle fois. On est dans une configuration de temps sec, c'est-à-dire que les pavés ne seront pas glissants, la différence de l'année dernière où ça avait fait pas mal de dégâts. Donc demain, ils vont vous faire de la poussière, mais ça peut aussi provoquer des dégâts, la poussière. Hein. Il y a pas que les pavés mouillés qui font du mal.
Ah oui, j'ai même un avis un peu différent d'ailleurs. Mais il est vrai que, alors, un, c'est pas Paris-Roubaix, on utilise des passages, oui, des secteurs.
Il y en a moins. Hein.
Il y en a sept. Le premier, on peut l'éliminer, il est quand même à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Donc quoi qu'il arrive, ça se regroupera, sauf s'il y avait un vent pas possible. Donc ça commencera quand même à Dart, à 45 kilomètres de l'arrivée, sur le passage pavé de Dart à Famars. Mais en fait, la course se décantera vraisemblablement à partir de Saint-Piton, à 26 kilomètres de l'arrivée, puisque quand on sortira de Saint-Piton, qui est un des secteurs les plus difficiles, d'un kilomètre 5, on rentrera un kilomètre plus loin dans le secteur de Kievi, sur 3 700 km, ce qui veut dire que sur 6 kilomètres, on sera pratiquement tout le temps sur les pavés. La petite portion de bitume qu'on aura entre les deux n'aura pratiquement pas d'influence sur des regroupements ou quoi que ce soit. Et là, la course sera véritablement lancée. Mais la différence entre le mouillé et le sec, eh bien, sur le mouillé, vous avez des vitesses qui sont réduites. Alors, c'est glissant, oui. Vous glissez, vous dérapez. Si vous tombez, vous faites beaucoup moins mal. Quand vous êtes sur du sec, vous êtes pratiquement entre 5 et 10 à l'heure plus vite partout. Alors, ça cogne beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus difficile sur le plan physique. Et les chutes sont beaucoup plus dures, beaucoup plus graves. Et à chaque fois qu'on a été sur du sec, il y a eu des chutes qui ont marqué le Tour de France.
Mmh. Thierry, tu t'attends une nouvelle fois à une étape très agitée demain, donc entre Serein et Cambrai, puisque le Tour revient en France quand même. C'est une bonne nouvelle, ça.
Ah oui, il rentre sur les pavés. Et donc, je m'attends vraiment à un final aussi chaotique qu'aujourd'hui. Hein. Mmh. Bon, en espérant pas de grosses chutes, mais les équipes vont s'affronter là-dessus. Hein. On sait que Contador est Moyenas sur les pavés. Froome, c'est pas un grand spécialiste des pavés non plus, donc vont en profiter, vont essayer de le mettre en difficulté.
Alors, Froome, pas un spécialiste des pavés. Écoute ce que dit Nicolas Portal, son directeur sportif, que l'on est allé interroger ce soir. Nicolas Portal.
En fait, il aime ça, quoi. Et c'est des fois, je suis un peu soucieux avec ça. C'est quand on a repéré aussi il y a quelques mois les pavés, il est rentré comme un sauvage dedans. Mais il est propre, quoi. Il est propre, il prend les bonnes trajectoires, donc ça rassure. Mais il a tellement envie de bien faire cette étape pour montrer qu'il est, parce qu'il n'a pas vraiment d'appréhension, que des fois, je me dis, c'est pas justement, on n'est pas sur l'autre côté où il va être trop motivé et puis où on fait des fois l'erreur, quoi. Mais bon, je pense que ça va aller.
Voilà, l'année dernière ça n'avait pas été hein, pour.
Bah non,
pour
il est même pas rentré dessus.
Il est même pas rentré sur les pavés puisqu'il est
bien
et abandonné. Donc on verra demain, messieurs. On est malheureusement pris par le temps. Il va falloir parier et accueillir tout de suite Benjamin Ramage.
Les paris RMC.
BMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker.
Benji, salut Benji.
Salut messieurs.
Et un nouveau leader dans l'équipe.
Lucho.
Dans la Dream Team.
Eh oui, on va.
Ça c'est quand même. Alors ça c'est. C'est vraiment le fantastique, c'est le seul fantastique.
Mais ça arrive souvent, il le prend souvent. On va réécouter parce que certains ne croient pas que Lucho a donné Rodriguez, mais c'est bien le cas.
Si, c'est vrai.
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
J'avais pensé, c'est embêtant parce que sa cote, c'est pas super. C'était Joachim Rodriguez, oui. Voilà, qui a envie de prendre un petit peu une petite revanche par rapport à la journée d'aujourd'hui. Donc, je vais dire Joachim Rodriguez.
Bah t'as eu raison, mon Lucho, t'es maillot jaune. Bravo. Ça te va bien au jaune. Hein, au
alors attention, il y a un leader par jour là aussi.
Ouais. Hein? Alors messieurs, les paris, il nous reste une minute, donc vous allez juste donner votre favori sec. On va quand même demander quelles sont les cotes des différents favoris à Benji.
Et il y a un grand favori, c'est le Norvégien Alexander Kristoff. La cote est à 6, après c'est équilibré. Moi je vais jouer John Degenkolb, cote de 7.
Ah, mais tu me l'as piqué. Je voulais prendre Degenkolb, vainqueur de Paris-Roubaix. Cyril.
Alors, étant donné qu'il va y avoir une course pour le maillot jaune, je Tony prendrai Martin. Greg Van Avermaet.
Il est combien en général ce soir?
Il est cinquième,
d'accord.
C'est vrai que...
Et Tony Galopin, je vais donner Tony Galopin, ouais, comme ça, paf.
Allez, c'est pas un mauvais choix. Hein.
Voilà, comme ça, Cocorico, la France. Il est à combien, Tony, Benji?
Il est à 50 et Van Avermaet à 10.
Très bien. Lucho?
Non, mais Thierry, il a donné?
Non, pas encore. Non,
mais moi, je suis maillot jaune. Alors, si tu permets, c'est moi le.
C'est Greg Van Avermaet.
Van Avermaet pour toi?
Oui.
Aussi, comme
oui,
le
druide.
Oui. Non, il est sur le porte-bagages, là.
Non, je te suis absolument pas. Là, c'est la coïncidence, hein, ouais. Quand tu l'as dit.
Eh ben, moi, je vais mettre Greipel.
Mais comme tu as dit,
André Greipel.
Les MC vont être obligés de faire la fête.
Très bien. Et Virginie Fulpa, elle va mettre qui, là?
Elle réfléchit depuis ce matin, attention.
Ah oui, non,
et ça change toutes les deux secondes.
Évidemment, ça change, parce qu'à la base, je voulais mettre Cancellara, et le pauvre, bon, il est tombé, il est à l'hôpital, je vais pas le mettre, donc.
Mais décidément, chaque fois que tu veux Lou.
Oui, j'ai l'impression que je crois, c'est fou, hein, alors je vais mettre Froome.
Froome?
Non.
Bah, quand même. Quoi, ça relancerait? Bah, quoi? Mais pourquoi?
C'est parce qu'il est britannique tout de suite.
Mais pourquoi pas?
Pourquoi pas demain?
Benji, vite fait la cote de.
200.
Du gorille.
Du gorille 18 et la cote de Froome 200.
Okay. C'est mal les malins, si.
C'est pas mal
là,
mon pari.
Si elle nous met 10 minutes au classement du maillot jaune demain, enfin, moi les malins. Très bien, c'est terminé pour les paris.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Je me fais toujours avoir une générique. On dit merci à Benji. Merci Benji.
T'es le plus mignon. Parce que je gagne là.
Alexandre Christophe est passé deuxième.
Deuxième
coup.
Ouais.
Dans les paris.
Ouais, très bien. Je sais pas ce qu'il veut dire, mais.
Ouais, moi non plus.
Il a baissé un peu. Non, les cotes, les cotes.
Allez,
les cotes.
Virginie est là. Elle a pas le gros caillou que a récupéré Fabienne Cancellara, mais bon, on va t'en ramener des petits cailloux.
J'espère bien. Non, mais à Anvers, hein, pas d'autres sur le parcours. Merci beaucoup. Hein. Merci Christophe. À demain pour la quatrième étape du Tour de France qui sera à vivre évidemment en intégralité sur RMC. Lucho et Bourgui restent avec moi. C'est notre rendez-vous de 20h dans quelques minutes avec vous au 32-16 et sur Twitter, hashtag RMC Live. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.